19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 mars et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Qu'il s'agisse d'objets récupérés et vendus dont l'argent permet de réaliser des rêves ou de boîtes complètes à destination des étudiants de l'UBO, la solidarité est au cœur de l'émission ce soir. En effet, ce soir on parle solidarité et notamment solidarité envers les personnes handicapées et malades dans un premier temps. Pour ça, on accueille Stéphane Noas, président de l'association Cœur Enchanté. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et Nadine Berrichel, trésorière de l'association.
Bonjour. Bonjour.
Donc tous les deux, vous faites partie de cette association née en 2019, qui s'appelait encore à ce moment-là les Ateliers d'Étienne. Donc tout part de la maladie d'Étienne, qui a 6 ans aujourd'hui, qui est atteint de neurofibromatose de type 1. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce dont il s'agit et quelles sont concrètement les conséquences au quotidien ?
Oui, alors la neurofibromatose de type 1, en fait, c'est une maladie qui atteint le système nerveux, en fait, hein, c'est une maladie génétique. Donc, le problème, c'est que ça crée des genres de fibromes au niveau du système nerveux. Et du coup, il y a à peu près 25 000 cas, 25 000, 30 000 en France, donc c'est très rare. Donc, c'est pas reconnu comme les autres maladies, en fait. Hein. Donc, et en plus, il est autiste sévère, donc du coup, ça fait que... il est dépendant de tout, donc ça joue, et la maladie automatiquement, je pense, hein, que ça joue un peu. Après, je suis pas médecin vraiment pour... Bon, il a pas eu de chance parce qu'il est né aussi sans tibia, donc par rapport à tout ça, les greffes ne prennent pas parce que la maladie est trop forte, en fait, donc elle mange la greffe. Donc on voit aux radios, il y a un bout de greffe qui croche et puis ça lâche, et là, on lui met une genre d'attelle en ferraille, on va dire, pour tenir sa jambe. Donc il ne peut pas marcher, la jambe ne grandit pas. Donc il est dans un fauteuil, on le pose sur le canapé, enfin il est dépendant. Il peut bouger en se traînant par terre, c'est tout. Il ne parle pas, il ne mange pas tout seul, il n'est pas propre. Hein, voilà, sa mère doit s'en occuper tout le temps, sauf quand il dort, voilà. Donc nous, on a craqué quand on a vu ce petit gamin, en fait, toujours souriant, en fait, jamais à se plaindre. Malgré toutes les opérations qu'il subit, une par an en moyenne, c'est pas plus, pas deux même. Et on s'est dit, ben, moi d'un côté, j'avais vu le gaspillage des gens dans les déchetteries. Et je sais pas, le premier confinement, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose à faire. Donc du coup, ça l'a fait beaucoup réfléchir à toutes ces choses-là. Et jusqu'à présent, on vendait des petits porte-clés, des petits objets personnalisés par Internet. La pandémie a fait que ben, les livraisons ne se faisaient plus très facilement, les colis, etc. Et puis, l'idée m'est venue de pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire en aidant ces enfants-là. Donc d'abord éteindre, on savait pas où on allait aller au départ, et en même temps aider les gens qui n'ont pas trop de moyens, en fait, avec des dons de tout, de mobilier, de tout ce qui se trouve dans une maison, un vêtement, vaisselle, bibelot, tableau, vraiment tout ce qu'on peut trouver.
Ça, du coup, on y agendera juste après. Je me demandais, comment vous avez fait la connaissance d'Ethan, peut-être Nadine en premier.
Oui, moi je suis la grand-mère à Ethan. Donc c'est ma fille Julie, c'est sa maman.
Et vous ?
Ben moi j'ai rencontré Nadine il y a 3 ans.
D'accord.
3 ans passés maintenant. Et donc du coup, ben, elle m'a présenté sa famille, et puis donc Julie, et puis Ethan. Et j'ai eu un coup de cœur, on va dire, dès le premier jour d'ailleurs. Et là, moi tout de suite, ça a cogité. Et puis, ben, sachant que tous les deux, on avait des problèmes de santé, on ne pouvait plus travailler normalement non plus. Donc, et on ne voulait pas rester inactif. Donc, l'un dans l'autre, ça nous a aidé aussi à se remettre à bouger, surtout.
À l'action.
Voilà, à l'action, tout à fait.
Et justement, comment on passe parce que, donc, à la base, c'est la maladie d'Ethan. Là, tout à l'heure, vous parlez du confinement, avec toute l'inactivité, etc., qui a fait que vous êtes engagé là-dedans. Mais est-ce qu'il n'y a que ça ? Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Peut-être une volonté depuis plus longtemps de vraiment faire quelque chose de plus grand, de plus concret ?
Oui. Alors, ça, c'est dans la tête depuis très longtemps. D'ailleurs, dans tous les tests que je fais, si vous connaissez l'Ikigai, par exemple, je suis à 95% dans le social. Donc,
est-ce que vous pourriez juste expliquer l'Ikigai pour les gens qui ne connaissent pas ?
Alors, l'Ikigai, c'est un test pour connaître un petit peu la personnalité des gens, hein, donc pouvoir quelle direction prendre dans la vie. Et donc, par rapport à plusieurs questions, par rapport à un gros questionnaire, hein, on arrive à une synthèse qui nous donne un petit peu notre voie, en fait, hein, vers quoi notre personnalité profonde est faite. Et du coup, bah, voilà, moi, c'était le social, mais je le savais déjà. Et là, bah, le petit Ethan m'a boosté, en fait. M'a boosté et m'a fait passer à l'action, en fait. J'osais pas au départ, je savais pas trop comment faire. Puis le Ethan m'a. Ça a été le point de départ, en fait. Et ça m'a vraiment très boosté, puisque du coup, bah, voilà, on a lancé l'atelier d'Ethan, mais on a démarré sans savoir vraiment comment que ça allait marcher. Puis après, beaucoup de gens ont joué le jeu, sont venus nous voir, etc. Et les réseaux, ça a beaucoup aidé. Et voilà, aujourd'hui, bah, on en est à prendre un local quatre fois plus grand, parce que ça adhère tellement que. Mais on en est ravis. Et on est ravis aussi d'aller chez les gens, parce qu'on arrive à livrer aussi des gens qui n'ont pas de moyens, de locomotion surtout, et donc de livrer, et en même temps, voir les gens heureux, et puis de pouvoir vivre comme les autres, en fait, hein, de pouvoir vivre dignement, moi j'appelle ça.
Ça, on y reviendra par la suite aussi. Nadine, vous, oui. Est-ce qu'il y a aussi une dimension sociale, en plus du côté familial, qui a fait que vous êtes engagée dans cette association?
Parce que... Bah, c'est mon petit-fils, donc on a voulu faire beaucoup de choses pour lui, pour essayer de le guérir, quoi. Donc, et comme on n'avait pas d'argent, bah, il fallait trouver une solution pour le guérir. Et c'est vrai qu'à Brest, on ne peut pas trop trouver les solutions, parce qu'il a beau être greffé, mais la solution, bah, ça ne marche pas du tout, quoi.
Oui, donc il fallait faire autre chose.
Voilà. Et donc, il y a un copain, Stéphane, qui a dit qu'en Russie, si on aurait de l'argent, on serait aidé là-bas.
Disons qu'il y a des solutions qui commencent à s'approcher, hein, de bon, le Canada aussi, où ils sont très en avance. Hein, mais bon, ici, on est à Brest, on a de la chance. Donc, des chirurgiens qui sont compétents, hein, qui connaissent bien aussi leur métier, qui travaillent avec des Américains, donc ça nous rassure. Hein,
oui, et puis là, l'association, c'est un premier pas
c'est
qui permet de faire connaître cette maladie-là, notamment.
Voilà, la faire connaître, et puis du coup, ça nous crée des contacts aussi d'autres associations qui se greffent à nous et qui nous aident aussi, et ça, c'est génial.
Ouais, c'est important.
C'est génial.
Et justement, pour parler de l'association, elle a pour but de récupérer de l'argent pour faciliter la vie d'Ethan et des enfants atteints de la même maladie, mais aussi de leur permettre de réaliser leur rêve, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. En fait, ce qu'on veut, c'est que réaliser leur rêve en même temps, ce dont ils ont besoin aussi, hein, du matériel adapté, peut-être qu'il manque un peu au bout pour acheter un fauteuil roulant, je ne sais pas. Ça, on est ouvert à toutes les idées, en fait, des parents. Hein. Et un jouet, un vêtement, peu importe, une sortie, quand on pourra sortir, tout ce qui peut leur faire plaisir, en fait. Hein. Donc c'est pour ça, maintenant, on sait qu'on peut aider plusieurs enfants, donc on s'est élargi à plusieurs maladies génétiques rares et l'autisme aussi, tant qu'à faire.
Et donc l'association, elle existe depuis 2019. Est-ce que pour l'instant, vous avez été en mesure de réaliser certains des rêves d'Ethan et d'autres enfants?
Pas pour l'instant. Si, Ethan, bien sûr, on a réussi.
Ouais,
hein.
Ouais.
Notre premier gros cadeau, ça a été d'acheter une tablette spéciale autiste pour pouvoir communiquer avec les parents, vu qu'il est non-verbal. Donc il appuie sur des touches, c'est la tablette qui parle, et avec plein de jeux éducatifs pour autistes. Je ne savais pas que ça existait. Et franchement, ce qu'on veut l'année prochaine, ou cette année même, puisqu'on pourra le faire, je pense, c'est de, pourquoi pas, acheter ces tablettes pour certains centres ou des parents qui ne connaissent pas le système, en fait. Et leur offrir, justement, déjà ça. Au moins pour pouvoir communiquer avec leurs enfants. C'est déjà une première idée, mais il y en a d'autres.
Justement, quelles sont ces autres idées? Des cadeaux,
ben,
de rêves?
Voilà, je sais que des fois, les gamins, ce sont des gamins, donc ils aiment bien des héros de Walt Disney, comme Ethan, par exemple. On lui offre un pyjama, je sais pas, c'est des vêtements, ben, avec ce qu'ils aiment, en fait, des jouets aussi, qui correspondent à leur envie, en fait, que les parents n'achèteraient pas forcément, par manque de moyens, parce que la maladie, l'handicap, ça fait dépenser... pas seulement de l'argent, mais de l'énergie aussi, c'est pas évident. Donc il faut le vivre au quotidien, en fait, pour le comprendre. Il faut vraiment être tous les jours, on va dire, dedans, entre guillemets, pour comprendre ce que c'est. Et là, nous, c'est voir le sourire de ces gens-là, des enfants, des parents, des gens qu'on aide à côté. Ça nous enrichit déjà.
Et pour récolter de l'argent pour faire ces cadeaux, pour faire ses rêves, vous choisissez de proposer une vente d'objets récupérés et recyclés, dont les bénéfices vont à l'association. Pourquoi ce système-là?
Ben, c'est venu comme ça, en fait. C'est parce que j'ai vu beaucoup de gens jeter dans les déchetteries des choses qui, moi, dans ma tête, pouvaient resservir. Et donc, l'idée est venue comme ça. Et puis, les gens ont adhéré comme s'ils attendaient déjà. Que ça se fait déjà. Hein, y en a déjà qui le font. Et là, sur Pouzané, ça a adhéré, on va dire, dès le premier jour. Maintenant, ils s'arrêtent carrément avant la déchetterie ou après, ils viennent nous voir directement. On trie sur place et on renouvelle tous les jours, en fait. Donc, ça part fur et à mesure que ça arrive parce qu'on a choisi de mettre des petits prix. Ce qu'on veut, c'est que ça parte le plus vite. Et donc, le but, c'est de jouer sur le nombre d'objets qu'on vend et l'argent intégralement pour le fonctionnement de l'asso et les enfants handicapés. Rien autrement. Pas de salariés, je ne veux pas, mais rien. Il n'y a pas un centime qui va ailleurs. Ça, c'est important pour nous. C'est vraiment le cœur.
Mmh. Et du coup, bah là, on comprend dans votre démarche, il y a quand même une partie un peu écologique. Et là, voilà, vous parliez des objets qu'on peut trouver dans les décharges, qui en fait sont encore en très bon état et qui peuvent servir et faire plaisir aux enfants. J'ai lu aussi sur votre site que vous participez à des récoltes de bouchons, de bouteilles en plastique, pour ensuite pouvoir les transférer, notamment au centre de soins Tien à Brest, j'espère que je prononce bien, qui ensuite les recycle pour en faire des fauteuils roulants. C'était vraiment important qu'il y ait, voilà, non seulement un geste pour les personnes handicapées, pour les enfants malades, etc., mais en plus, ce geste pour l'écologie qui, en fait, va quand même avec...
Oui, tout à fait. L'écologie est importante aussi, puisqu'on est en plein dedans, en fait. Hein. Ouais. Et donc, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire c'est ça qui va être l'avenir, en fait, pour moi. Et donc, les bouchons, oui, on y était déjà pour Julie, hein, donc on le faisait. Il y a un ami qui les prend, qui les envoie au centre. Les journaux, qui sont recyclés, bon, là, c'est pour de l'isolation, mais ils ne sont pas jetés. Donc, voilà, et on a mis un bac à disposition, d'ailleurs, au magasin, pour que les gens, même si on est fermé, ils peuvent les déposer. Et tout ce qui peut servir, on a des jeunes universitaires aussi qui nous ont appelés, nous ont envoyé leur projet pour mars-avril, donc on y arrive. Le bois récupéré de meubles irréparables, par exemple, ils veulent en faire des jouets en bois pour enfants autistes qui partiraient à Landerneau. Ça, c'est un super projet. Ça, franchement, ça m'a vraiment pris au trip direct. Là, je suis entièrement partant.
Nadine, est-ce que vous...
Et autrement, on a aussi des gens avec... Comment s'appelle Samuel et...
Alors oui, on a beaucoup de gens qui débarrassent les maisons. Donc eux, c'est du vide maison qu'ils font. Et les choses qu'eux ne les intéressent pas, ils nous appellent, en fait. Donc Brock, ils jouent le jeu avec nous, et il y a Brock Débarras, Brest Débarras, Aubon Débarras. Il y a beaucoup comme ça qui ont adhéré à notre association, et au lieu de tout jeter parce qu'ils vont pas tout garder, ben ils nous appellent. Et nous, on prend ce qu'on peut recycler, ouais, tout à fait. Parlons des bénévoles aussi.
Oui.
Justement, par rapport aux bénévoles, donc là, tous les objets que vous avez pu récupérer, que ce soit chez les gens parce qu'ils déménagent et qu'ils se débarrassent d'objets ou ailleurs, tous ces objets sont entreposés dans un magasin. Un magasin qui change plus ou moins d'endroit, ou en tout cas se renouvelle, parce qu'il y a un nouveau magasin qui ouvre au 22B route de Trémaïdic.
C'est ça,
j'espère que je prononce bien. Qu'est-ce que ça va changer pour vous?
Ben, ce qui va changer, c'est que l'on va pouvoir aussi entreposer, enfin, même mettre en... les gens vont pouvoir voir aussi les gros mobiliers qu'on ne pouvait pas exposer au magasin trop petit. Donc on avait des box, on s'était démonté, c'était rangé, on mettait sur internet, mais les gens ne le voient pas en réel. Et donc là, tout sera sur place, en fait. Donc ce sera rangé par thème, il y aura le thème enfant, le thème mobilier, le thème hi-fi. Beaucoup de vinyles aussi, voilà. On a des petits jeunes, on a un petit jeune autiste qui viendra réparer tout ce qui est informatique. Donc on récupérera tout le vieux matériel informatique, hi-fi, etc. Petit électroménager, il peut les réparer, en fait. Et donc voilà, ils seront revendus à très bas prix pour les gens qui recherchent. J'imagine des familles, quelquefois, avec ce qui se passe, avec plusieurs enfants, on va pas acheter un ordinateur par enfant, c'est pas évident. Donc ça pourra les dépanner. Ça, c'est un exemple.
Oui, bien sûr. Et est-ce que du coup, par rapport à l'ouverture de ce magasin qui sera donc plus grand, qui permettra d'accueillir plus de monde, d'avoir plus d'objets, est-ce que vous aurez besoin de bénévoles, matériel? Comment ça se passe?
Oui, on aura besoin de bénévoles. Là, on a une bénévole, une super bénévole, hein,
oui,
qui est avec nous depuis le début. Donc Patou, que je remercie, parce que c'est elle qui tient la boutique quand on est, nous, à l'extérieur, très souvent,
ouais,
comme c'était le cas encore aujourd'hui. On est toujours sur le fil. Et donc, elle nous a rendu un énorme service. Et puis, on a 3, 4 ou 5 personnes qui commencent à s'accrocher aussi.
Ouais, il y a Delphine, Joël.
J'ai une jeune fille handicapée de Brest qui m'a contacté pour être bénévole. Ça me fait très plaisir. Les gens qui ont aussi un souci de maladie, moi, je suis très content de leur rendre service. Donc, qu'ils viennent avec nous, c'est génial. Donc, en même temps, ça leur fait voir autre chose. Et puis, on oublie la maladie souvent quand on est occupé comme ça. Ça, c'est important.
Et justement, est-ce que peut-être dans la manière dont vous annoncez ce besoin de bénévoles, vous allez essayer de faire quelque chose pour qu'il y ait potentiellement des personnes qui soient handicapées et qui puissent faire une première activité, même si c'est du bénévolat et que ce n'est pas payé, ça reste créer du lien social, etc.
Tout à fait. C'est ça que je veux, en fait. Je veux qu'il y ait une ambiance vraiment familiale, en fait, que tout le monde soit à sa place et vraiment la même mentalité dans le sens d'aider, en fait, et donc de rendre service aux autres. Et je pense que c'est enrichissant sur la santé aussi, d'aider les autres. C'est très important. Moi, nous, tous les deux, on était bien malades, hein, quand même. Et on va beaucoup mieux depuis qu'on est dans l'entraide. Et ça, c'est important. On voit même pas qu'on a des problèmes de santé. Donc, on les oublie. Et on est vraiment à fond pour les autres. Et ça, c'est notre grande joie. On dort très fatigué. Et on se lève bien. Et on a des grosses journées.
Oui, donc une association qui aide les autres personnes, les enfants handicapés, malades, mais qui fait aussi du bien aux personnes qui y participent.
Voilà, c'est ça qui est bien dans le sens là, c'est que ça joue dans les deux sens. Et on aide les gens et on aide les enfants. Ça, c'est magnifique.
Nadine, du coup, vous êtes vraiment parent d'Étienne.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez pu voir comme changement entre le début de l'association et maintenant?
C'est vrai qu'on est beaucoup attaché à Étienne, et c'est vrai que l'association a vraiment évolué, quoi. Depuis quelque temps, c'est vrai que Patou elle rapporte assez d'argent pour payer le local pour l'instant, parce que il est très cher, quoi.
C'est vrai.
Et on n'a pas d'aide, alors il faut payer avec l'asso, quoi.
Pour l'instant, on joue beaucoup sur les dons.
Ouais.
Et on pense aussi, on va le faire, c'est un bulletin d'adhésion pour les gens qui sont vraiment sont intéressés par la maladie, je veux dire qui vraiment il y en a qui viennent par curiosité, d'autres voilà, ils sont vraiment même confrontés à ça, et donc on va faire un bulletin d'adhésion à 10 € l'année. Oui, mais c'est pas énorme, mais je vois déjà sur 300 abonnés ça fait 3 000 €. C'est le calcul est vite fait, à 1 500 € de loyer par mois le local, ouais. Ça peut aider, et voilà, et je pense que les gens vont accrocher pour la bonne cause, ça je suis confiant.
Oui, donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent devenir bénévoles, est-ce qu'il y a une adresse mail peut-être à partager ou un numéro de téléphone?
Oui, alors on a lancé la nouvelle adresse, hein, déjà, ça y est, ils peuvent déjà. Alors l'ancienne c'était maladie génétique rare, était un peu longue. Hein, les cœurs enchantés au pluriel, hein, sans accent, sans rien, gmail.com, ça y est, elle est fonctionnelle. J'y réponds tous les soirs ou tous les matins de bonheur.
Eh bien, super. Merci beaucoup à tous les deux.
Ben, merci à vous, surtout. Merci. Merci énormément.
C'est gentil de votre part.
C'est important. C'était donc Nadine Berichel, pardon, trésorière de l'association, et Stéphane Noas, président de l'association Cœur Solidaire, autrefois appelé l'atelier d'Étienne, qui a pour but donc de réaliser les rêves des enfants malades et handicapés, et dont l'argent est récolté à travers des ventes d'objets récupérés et recyclés. Et tout de suite, on écoute For One Heart de Théodora.
Thank you.
Vous êtes sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Avant de parler de la solidarité dont fait preuve la mairie de Guilherme envers les étudiants, on parle justement des étudiants avec notre nouveau podcast LUFR qui met en lumière les élections UFR à l'UBO avec l'interview de Lucien pour ce deuxième épisode.
LUFR, portrait d'élus étudiants.
Je m'appelle Lilian Loegel et je suis en Master 2 de droit public approfondi à l'UBO. Les élections UFR permettent de faire vivre la démocratie au sein de notre université, donc ça permet aux étudiants de faire partie des prises de décision. Je me suis investi dans une liste parce que j'étais tout simplement membre d'une asso étudiante et ça permettait justement de faire vivre mon engagement et de défendre les positions qui me tenaient à cœur au sein de ma faculté. Pour résumer simplement, c'est quoi les missions du coup d'un élu étudiant ? C'est d'abord de siéger en conseil, de faire remonter les différentes problématiques dont les étudiants peuvent faire face pendant leurs études, et c'est également soutenir les associations, donc par exemple par le vote de subvention. Une chose que j'ai pu mettre en place grâce au fait du coup de mon mandat d'élu, c'était en fait une conférence, enfin un cycle de conférences avec des personnalités politiques. Le fait en fait qu'on soit élu et qu'on ait réussi à créer une relation de confiance avec la direction de la composante nous a permis en fait de prouver qu'on était tout à fait capable d'organiser ce genre de projet. Donc on a eu du coup la bénédiction, on va dire, de la composante pour faire ce genre de projet. Voilà. J'ai organisé deux conférences dans ce sens-là avec un autre collègue de l'association qui était également élu. C'était donc une première avec le député Jean-Charles Larsonneur, qui est député donc de Brest, et également la présidente du conseil départemental, donc Nathalie Sarabezol. Le but, c'était tout simplement de parler de manière plutôt juridique de leur mission et de débattre avec les étudiants du coup en droit. Et c'était notamment, par exemple, pour un exemple de sujet avec la présidente du conseil départemental, c'était la réforme des départements. Alors un exemple de cas qu'on peut défendre via le rôle d'élu, c'est tout simplement un problème lié à un cours. Par exemple, il y a des cours qui sont obligatoires, mais certains enseignants parfois mettent une absence injustifiée, tout simplement parce que l'étudiant n'a pas forcément rendu son travail, sauf que c'est pas un motif valable. Donc c'est un exemple assez simple, mais c'est ce genre de choses que nous on fait remonter pour résoudre le problème le plus rapidement possible. J'ai pas une anecdote précise, mais j'ai plutôt une mentalité qui s'est développée en fait via ce rôle d'élu. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que tous les acteurs de l'université, donc que ce soit les enseignants, la direction, l'administration, les étudiants, on était vraiment tous dans le même panier, qu'on était là pour travailler ensemble. Et en fait, quand on est élu, on se rend vraiment compte que on est vraiment tous dans le même camp, on a tous les mêmes objectifs. Donc ça fait vraiment plaisir de se rendre compte que qu'on travaille avec des gens qui ont les mêmes objectifs que nous, et ça crée vraiment, on va dire, peut-être presque une convivialité en fait, dans l'esprit.
De bonnes nouvelles en cette période, il y en a peu, mais il y en a tout de même. Et les initiatives de solidarité en faveur des étudiants commencent à fleurir un peu partout, y compris dans des villes que l'on n'attendait pas forcément sur ce secteur en raison de leur démographie. À Guilherme, par exemple, une initiative poussée par la ville et le Centre communal d'action sociale a vu le jour récemment. Pour en parler avec nous dans le studio, Pierre Évin, conseiller délégué à l'insertion, l'emploi et le handicap de la ville de Guilherme. Bonjour monsieur.
Bonsoir.
Et bonjour Pierre-Louis.
Bonsoir Marie et bonsoir à tous. Alors, depuis le 25 février et pendant tout le mois de mars, la ville de Guilherme et le CCAS proposent une opération de solidarité envers les étudiants. Selon le site internet de la mairie, le principe est simple et je confirme, après l'avoir lu, on prend une boîte à chaussures ou autre, une boîte, on indique sur la boîte à qui s'adresse cette box solidaire ou boîte solidaire, si on veut être en bon français, si c'est une jeune femme ou un jeune homme, et on y met des produits d'hygiène, des produits alimentaires, un livre, une revue, enfin j'imagine qu'un CD ça passe aussi, faut peut-être que vous confirmez.
Ça passe aussi, tout à fait.
Un petit mot de réconfort, éventuellement, ça peut toujours faire du bien. Et puis, pourquoi pas, un petit cadeau surprise. Bon, peut-être pas un Kinder, mais pas loin. C'est ça, Pierre-Évin.
Écoutez, tout est possible.
Pierre-Évin, conseiller délégué à Guilherme, comment vous est venue l'idée, alors peut-être pas à vous directement, mais en tout cas à la ville, à Guilherme et au CCAS, d'agir en faveur des étudiants pour une ville qui doit pas en compter tant que ça, finalement?
Alors, la ville de Guilherme a des étudiants guilhériens qui sont peut-être en études à Brest ou ailleurs. Pour autant, Guilherme est à proximité de la ville de Brest avec sa population de 30 000 étudiants. Et il est venu naturel que nous lancions cette initiative au profit des étudiants en détresse aujourd'hui en raison de la crise sanitaire que l'on connaît.
Alors, si je vous pose cette question, c'est aussi parce que dans les missions du CCAS, on peut retrouver tout ce qui est d'ordre social, mais il y a aussi en fait la question des personnes âgées. Du coup, est-ce que vous considérez que vous dépassez un petit peu les missions ou que ça en fait partie et c'est une interprétation
Alors, ça en fait pleinement partie et c'est aussi une interprétation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1 an au premier confinement ? Les personnes âgées de la commune, comme dans toutes les communes, étaient en détresse de solitude, déjà. Elles ne pouvaient plus sortir de chez elles, donc le CCAS a mis en œuvre diverses actions de portage de repas, de courses, de médicaments si besoin, par exemple. Après, la crise s'éternisant, je dirais, nous avons créé différentes actions, par exemple des mots fléchés, des mots croisés qu'on mettait dans les boîtes aux lettres des personnes âgées. Donc là, on les occupait. Mais on s'est dit aussi que pour les occuper, pourquoi pas venir en aide aux jeunes, aux étudiants, à ce que ces personnes âgées puissent créer, pourquoi pas, des boîtes solidaires au profit des jeunes étudiants. Et donc, c'est là ensuite qu'on a généralisé à toute la population, parce que pourquoi demander aux personnes âgées exclusivement de faire cet acte citoyen, je dirais, mais plutôt à l'ensemble de la population.
Oui, effectivement, vu comme ça, ça fait sens. Dans un article de Ouest France qui est paru hier, on pouvait lire, et là c'est une citation donc que Ouest France donne au CCAS, au Centre Communal d'Action Sociale, « Il nous appartient d'apporter notre soutien à ces jeunes dans la précarité afin qu'ils soient convaincus que des jours meilleurs reviendront. » On voit aussi sur la page Facebook de la ville de Guilherme un bandeau Guilherme solidaire des étudiants. Pierre Évin, conseiller délégué à Guilherme, est-ce que l'idée c'est vraiment d'aider les étudiants à se projeter en fait dans des jours meilleurs ?
Très clairement, parce que la situation est tellement compliquée depuis un an que on a tendance, peut-être chacun de son côté, à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Or, nous sommes convaincus que le verre à moitié plein, il existe. C'est un problème de temps. Et donc, à partir de là, on se doit d'apporter du positif à notre dose, je dirais, enfin à notre niveau, au profit des jeunes, parce que c'est évident que des jours meilleurs, il y en aura. Les générations passées, je ne parle pas de la mienne, mais je parle plutôt de mes parents ou grands-parents, ont connu d'autres crises, les guerres par exemple. Les jours meilleurs sont arrivés, donc dans cette crise sanitaire, des jours meilleurs arriveront également.
Oui, c'est sûr, faut garder le positif en tête et se dire que ça ira quand même mieux au bout d'un moment.
Tout à fait.
Vous avez fait le choix, donc, on le disait, d'une boîte en quelque sorte personnalisée.
Oui.
Pourquoi ce choix ? Puisque on l'a dit en introduction, faut indiquer si c'est à destination d'une jeune femme ou d'un jeune homme.
Oui.
Pourquoi pas l'avoir fait ? Je sais pas. Hein, je donne l'exemple. On a reçu le pack foot, donc le club de football de Plouzané, qui a fait une action où ils ont donné des denrées alimentaires, des produits hygiéniques directement à l'association l'Agorae. En gros, pourquoi vous avez fait le choix du personnalisé ?
Alors, on a souhaité faire cette boîte personnalisée ou personnelle. Pour plusieurs aspects. D'abord, qu'il y ait un effet de surprise à l'étudiant qui recevra cette boîte. Un peu comme un cadeau de Noël, on va dire. La surprise, c'est toujours agréable d'ouvrir un colis dont on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Après, on voulait différents aspects. Il fallait qu'on parle d'hygiène, parce que des produits hygiéniques, ça coûte cher. Il fallait qu'on ait de l'alimentaire, parce que des produits alimentaires, ça coûte cher. Or, c'est une nécessité absolue. On voulait un peu de culture, parce que tout le monde souffre du manque de culture aujourd'hui. Etc. C'est à partir de là qu'on a voulu créer cette boîte solidaire.
Et donc, en plus, moi, j'ai utilisé le terme de personnaliser, puisqu'on peut laisser un petit mot de soutien, oui. Quelque chose comme ça. Ça, c'était important aussi.
Très important, parce que c'est pas parce qu'on est en difficulté soi-même au regard de la crise que les autres ne le sont pas. Et donc, transmettre du positif à un autre qu'on ne connaît pas et qu'on connaîtra pas, c'est quelque chose d'important, parce que chacun... Chacun réagit de façon différente, mais pour autant, l'espoir existe.
J'ai envie de rebondir sur le qu'on ne connaîtra pas, Pierre Évin, conseiller délégué à la mairie de Guilherme. Il n'y a pas justement dans cette idée, tant qu'à créer du lien, je me disais, pourquoi pas laisser une adresse, s'il y a un mot personnalisé pour créer du lien entre ces générations. Ça vous est venu à l'esprit
Alors, ça ne nous est pas venu à l'esprit a priori, mais bon, tout est possible. Hein. Écoutez, si des contacts et du lien social peut se faire grâce à cette boîte solidaire, il n'y a aucun problème.
Bon, et ben voilà, Radio U vous souffle l'idée, hein, pourquoi okay. pas après ça, tout. Voilà, ça peut créer du lien et faire et provoquer des rencontres sympas. Sur le site de la mairie. Donc c'est indiqué que toutes les boîtes seront distribuées à une association d'étudiants des universités de Brest. Est-ce que vous avez choisi déjà l'association ou pas ?
Oui, pas plus tard que ce matin. Nous avons rencontré les responsables de la FEDEB en mairie et pour faire connaissance et pour leur expliquer notre projet et donc on s'est mis d'accord avec eux et puis avec l'association Agorae, donc l'épicerie sociale de l'université, hein. Donc c'est par leur intermédiaire que ces boîtes seront délivrées.
Et du coup, le contact est bien passé. J'imagine qu'ils ont reçu très favorablement votre initiative. Est-ce qu'ils étaient au courant aussi ? Est-ce qu'ils avaient vu l'information passer ?
Oui, ils avaient vu sur Facebook, sur le Facebook de la mairie. Et puis, on avait pris contact avec eux hier pour le rendez-vous de ce matin. Donc, ils étaient ravis, évidemment, de nous rencontrer et que cette initiative puisse apporter du réconfort à nos étudiants.
Ouais, j'imagine. Et pour l'instant, est-ce que ça marche bien ? Vous avez reçu beaucoup de boîtes. J'imagine qu'il y a un suivi là-dessus.
Bah alors le premier message qui a été lancé sur Facebook, c'était jeudi soir dernier. Dès le lendemain matin 10h, nous avions déjà deux boîtes de déposées. Aujourd'hui, nous n'avons utilisé pour l'instant que le réseau social, que Facebook. Et puis la presse locale, Ouest-France qui est parue ce matin et j'espère le Télégramme demain, ce soir via Radio U évidemment. Et puis nous aurons également notre feuille hebdomadaire, les nouvelles de Guilherme qui va transmettre cette information au profit des personnes qui ne sont pas aguerries, je dirais, aux réseaux sociaux. Et donc ça va paraître en fin de semaine et je pense qu'après ça fera boule de neige. Tout à l'heure nous étions à 12 boîtes, mais je ne suis pas très inquiet.
Oui, 12 boîtes finalement pour une opération lancée il y a moins d'une semaine, c'est pas mal du tout.
Ouais.
Donc les boîtes, on rappelle le principe, il faut les déposer
à l'accueil de la mairie de Guilherme,
voilà,
aux heures d'ouverture.
Finalement, c'est aussi une manière de créer du lien social. Il faut se déplacer à la mairie,
on
rencontre des personnes, on discute. Est-ce que vous avez eu la chance, peut-être pas personnellement, j'imagine que vous êtes occupé en dehors de votre activité de conseiller délégué, de rencontrer des personnes qui ont participé, qui ont peut-être déjà des retours et qui leur disent « bah oui, ça fait du bien de penser aux autres ».
Ah bah écoutez, les gens sont ravis déjà par les messages que l'on peut voir sur Facebook et quand ils viennent déposer leur boîte, ils sont heureux qu'on ait pu penser aux jeunes puisqu'on fait aussi un transfert où nous sommes des parents, où il y a des grands-parents qui pensent à leur petit-fils ou petite-fille quelque part dans la chambre de 9 mètres carrés dans une cité U et donc chacun fait un transfert et chacun est ravi de pouvoir contribuer de cette façon-là.
Alors l'appel, évidemment, c'est la mairie de Guilherme, oui. Et le CCAS de Guilherme qui le fait. J'imagine que s'il y a des personnes d'autres communes qui ont envie de participer, qui viennent, je sais pas, de communes limitrophes, à Milizac, à Renan par exemple, vous allez pas les mettre dehors ?
Pas du tout, bien au contraire, ils seront bien accueillis à la mairie de Guilherme.
Bon, très bien. Peut-être que ça vous fera récupérer d'ailleurs des habitants qui se diront, c'est magnifique comme initiative. Et puis, dernière question, Pierre Évin, est-ce que vous allez tenir au courant le public des avancées, je ne sais pas, peut-être via Facebook,
oui.
Savoir quand est-ce qu'il y a des arrivées de boîtes, etc.
Nous ferons des points réguliers. Aujourd'hui, on n'a pas encore étudié la temporalité, mais oui, ça va se faire. Et puis, on fait cette opération pour tout le mois de mars, donc on fera des points d'arrêt, je dirais, à certains moments, bien sûr.
Et puis, j'imagine que les boîtes, c'est précisé, des boîtes à chaussures ou autres, on peut un peu les personnaliser, rajouter d'autres choses.
Pas plus tard que hier matin, il y a une maman qui arrivait avec sa fille adolescente, livrait une boîte, et puis elle avait personnaliser la boîte en faisant un paquet cadeau, je dirais, avec un Pareo.
Original.
Très original.
Original et sympathique. Oui.
Et le Pareo est aussi un objet parmi les autres qu'il peut y avoir dans la boîte.
Oui, bien sûr. Donc, en plus de ça, ça peut amener de la créativité.
Complètement.
Merci beaucoup, Pierre Evin. Peut-être que vous avez quelque chose à rajouter. Un lien de Facebook, de site internet.
Tout est noté sur le site de la ville de Guilherme. Il n'y a pas de problème. Donc, les auditeurs peuvent sans problème prendre connaissance et créer leur boîte solidaire et on les attend. Merci.
Merci beaucoup, Pierre Evin, conseiller délégué à l'insertion, l'emploi et le handicap de la ville de Guilherme, d'avoir été avec nous pour parler de cette initiative de boîte solidaire ou box solidaire, ça vous faites comme vous voulez, à destination des étudiants.
Merci à vous.
Et tout de suite, on écoute « I was not born » des Fontaines d'ici.
Sleeping.
Vous êtes sur Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites et on écoute tout de suite la chronique radiophonique L'économie entre autrement en partenariat avec Ascoria et la CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires réalisée par Anthony, volontaire en service civique à RKB. Chez Even, situé au cœur de Moncontour, est un tiers-lieu numérique qui propose ses services de coworking et d'aide à l'outil numérique aux professionnels et aux particuliers. Rencontre avec Sylvaine Alnaud, professionnelle qui nous présente son expérience au sein du tiers-lieu.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Alors moi je suis Sylvaine Alnaud, depuis 10 ans sur le pays de Moncontour, à Hainaut exactement, et j'ai cofondé un écolieu avec mon conjoint qui s'appelle La Pâture et Chêne, où on propose des formations à la permaculture entre autres. Je recherchais un lieu pour pouvoir m'isoler, pour travailler plus efficacement, et donc jusque-là j'allais plutôt sur Saint-Brieuc, et donc là ben l'opportunité de rejoindre chez Yvonne est tombée vraiment à pic au moment où je voulais réduire mes déplacements. Donc je suis désormais coworkeuse et j'utilise quelques demi-journées ou journées à la semaine pour venir travailler, pour mettre à jour mon site internet, la communication mail, voilà, tout ce qu'une entreprise a besoin administrativement, etc. Et à côté, depuis quelques mois, j'ai rejoint bénévolement l'association pour justement appuyer cette notion de tiers-lieu et pas que numérique, tout ce qui est aussi dynamique sociale et de transition. Donc on a plein d'idées en création, comme par exemple un repère café, donc c'est un espace pour bricoler, apprendre à bricoler et devenir autonome avec les outils du quotidien, pour le matériel du quotidien pour réparer chez soi. En tant qu'entreprise, j'ai bénéficié du service, donc c'est souvent le lundi après-midi, si je ne dis pas de bêtises.
Pour donc, un premier rendez-vous, oui, c'est le lundi après-midi.
Voilà, donc j'étais reçue par Véronique et Christophe. J'avais un besoin, en fait, de découverte des outils de visioconférence pour développer des activités d'atelier en ligne. Et j'hésitais entre divers outils et je n'avais pas les compétences ou les connaissances. Donc là, du coup, j'ai été guidée par leurs compétences. Et j'avais aussi un besoin par rapport à l'utilisation de LinkedIn, qui est donc le réseau social des entrepreneurs pour les entrepreneurs. En fait, c'est un B2B. Et donc, voilà, on a passé une demi-journée ensemble pour faire le point sur ça. Et j'ai eu des conseils aussi quant à la, de développer tout ce qui est vidéo pour communiquer sur ce qu'on fait, sur notre lieu, etc. Donc, c'était super intéressant.
On avait un souci pour le lieu qui était, en fait, de permettre un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux télétravailleurs et à toute personne qui veut réserver l'espace. Et on a permis, en fait, à une start-up de se développer, vu qu'elle a travaillé pour chez Yvonne, pour développer un système de réservation qui s'intègre sur un site internet, qui génère, en fait, des codes à usage unique, une fois que la personne a réservé, et qui permet, du coup, l'accès au lieu, dimanche, enfin le dimanche, les jours fériés, les vacances, grâce à un boîtier extérieur. Et donc cette entreprise qui est en cours de développement s'appelle Comindi. Chez Yvonne, par son aspect coworking télétravail, s'est rapproché d'un réseau breton qui se développait, qui s'appelle le réseau Bretagne Coworking, et ils sont particulièrement intéressés par cette technologie, puisque c'est le souci de que faire pour accueillir facilement le public et gérer les trousseaux de clés, gérer les encaissements et tout ça. Donc voilà, c'est une petite histoire aussi de chez Yvonne.
C'est un outil super pratique. Donc moi, je l'utilise, je réserve sur le site internet chez Yvonne. Mon créneau, demi-journée, journée, je paye en ligne et je reçois un code, soit un lien vers une application pour ouvrir la porte. Et du coup, je suis autonome avec mon téléphone portable ou le code pour rentrer et je peux me décider le matin pour l'après-midi, par exemple, pour venir bosser en dernière minute sur le lieu. Donc, c'est très confortable pour gérer son planning en tant qu'entrepreneur aussi et selon les besoins, quoi.
Ce reportage a été réalisé par la CoreLab. Retrouvez-le en podcast sur corelab.org.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur le 101.1 FM.
schéma récurrent. Peut-on vivre hors du temps? Le cadran pétrifie, tu restes ici à clan de trapalant. On est loin de cette chanson douce que te chantait ta maman. Soyons vaillants, dans ce bolide les années défilent en roue libre. Pétage de plomb, baisse de régime, ne s'invite pas qu'en coulisses. Les manques d'appétit pour cette vie méritent d'être explorés. Tu fais comme si le vide n'existait pas, laisse tomber. Vivre avec ce qu'on est, c'est mignon, morale plombée. Petit con veut dompter ses peurs afin de pouvoir les affronter. Je vois les mêmes discours abonder sur tous les prompteurs. À fond la caisse, tu ne vois même plus les kilomètres au compteur. Ici mon flow ne sera pas flashé par les radars. Pas de refrain fédérateur, ni l'âme d'un Che Guevara. Quand la trotteuse devient faucheuse, tout le monde se fait marave. Pas de quoi sonner l'alarme, même si dans tout ce vacarme je laisse échapper ma larme. Je me faufile entre kick et snare. Je me faufile entre kick et snare, histoire de vider le stress. Quelques mesures in extremis que j'expédie avec plaisir. J'ai fixé l'horloge des heures durant, le cœur brûlant. Peut-on vivre hors du temps? Je me faufile entre kick et snare, histoire de vider le stress. Quelques mesures in extremis que j'expédie avec plaisir. J'ai fixé l'horloge des heures durant, schéma récurrent. Peut-on vivre hors du temps?
Podcast, Radio U sur le net, radio-u.org. Remember what I
en cuir marron, téléphone au ceinturon, Saint-Michel. Yeah, yeah, Saint-Michel. Saint-Michel, c'est le roi de tous les ouragans du ciel. Flash. Saint-Michel, Saint-Michel, vivement l'hiver pour remettre l'anorak bleu ciel. Un pantalon en velours et des yeux qui sentent l'amour, Saint-Michel. Une nuque longue qui fait rêver, des lunettes en verre fumé, Saint-Michel. Classe, Saint-Michel, Saint-Michel. Il a déjà connu des filles, il s'en rappelle. Saint-Michel, Saint-Michel. Il dirait pas non pour un rapport sexuel. Mais attention car ce soir c'est la fête de Michel. Pour l'occasion tous ses amis ils lui ont offert rien. Mais c'est pas grave car Michel il a besoin de personne. Et ce soir il va danser au cas où. Bien. Une démarche de joli cœur, une petite claque sur l'âge du videur, c'est Michel. Ah celui-ci. Le videur lui rend sa claque. Michel est un peu patraque, Saint-Michel. Ouh là là. Saint-Michel, Saint-Michel. Il rentre quand même par la porte des poubelles. Flash. Saint-Michel, Saint-Michel. C'est le démon de la danse qui l'appelle. Sur la piste, tout le monde le mate. Il fait peur quand il s'éclate, Saint-Michel. Bah dis donc. Quand il fait du smurf, qui fait rigoler les meufs, Saint-Michel. Aussi. Saint-Michel, Saint-Michel. Tout le monde pense que c'est pour de faux, mais c'est réel. Saint-Michel, Saint-Michel. Tout le monde pense qu'il est bourré, alors que oui. Mais attention, car ce soir, il est pas seul sur la piste. Y'a une fille qui danse comme lui. Mal. Et cette fille, Saint-Michel, il lui a tapé dans l'œil. Non mais vraiment car Michel lui a fait mal. Une histoire qui commence bien à l'hôpital des 15-20, Saint-Michel. Ça va ? Dans la salle des urgences, qui reprend son pas de danse, Saint-Michel. Saint-Michel. Et Michel. C'est la plus belle des histoires depuis Noël. Saint-Michel et Michel, ils vivront à Tahiti ou en Moselle. On sait pas. Saint-Michel et Michel, le mariage ce sera Bondy ou Ramatuel. Saint-Michel et Michel, leur enfant ce sera Philippe ou bien Michel. Now
Radio U vous suit de A à U.